morning edition from NPR News.
Let me see some in the house.
I am ready to go to Paris.
Je peux vous seguir dans la radio.
France Inter, le 18-20.
Un jour dans le monde, c'est jusqu'à 19h. Le Brexit dans un mois tout juste, vraiment ? Question dans quelques secondes pour Pauline Schnapper, professeure de civilisation britannique. Le bruit du monde, l'Inde et la ville de Bangalore, haut lieu de fabrication de la bière, des dizaines de brasseries immenses. Et sous les radars de l'actualité avec Claire Chaudière, le Congo-Brazzaville et de gigantesques écoulements de sable, les conséquences de la crise économique en Argentine, et puis une nouvelle gamme de poupées Barbie aux États-Unis. Vers 18h55, le monde à l'envers, Claude Guibal. Toute cette semaine, les crises que l'on croyait réglées et qui ne le sont pas. Ce soir, l'Éthiopie.
Pierre Veil. Un jour dans le monde.
Pauline Schnapper, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure de civilisation britannique contemporaine à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Les rebondissements liés au Brexit ont marqué 2019. On vous a souvent invité ici à France Inter avec Fabienne Synthèse pour analyser tout cela. Vous avez publié avec Emmanuel Avril « Où va le Royaume-Uni, le Brexit et après ?» aux éditions Odile Jacob. Alors normalement, dans un mois exactement, ce sera le Brexit, le 31 janvier 2020, après 47 ans d'une vie commune mouvementée avec l'Union européenne. Le divorce sera prononcé, Boris Johnson, le Premier ministre britannique, le promet. L'accord sur les modalités du divorce a été enfin approuvé à Londres, à la Chambre des communes, par 358 voix contre 234, c'était le 20 décembre. En quelques mots, rappelez-nous ce qu'il y a dans ce texte qui a été approuvé par la Chambre des communes.
Alors, ce texte donc porte, comme vous l'avez dit, uniquement sur les modalités de sortie du Royaume-Uni et en particulier sur les trois points essentiels qui ont occupé les Européens et les Britanniques depuis 2 ans et demi, c'est-à-dire le montant du chèque que vont payer progressivement les Britanniques pour sortir, ça c'était très important, les droits des citoyens britanniques résidant en Europe et citoyens européens résidant au Royaume-Uni pendant cette période de transition. Et puis surtout, la question qui a le plus occupé les capitales, c'est-à-dire la question de la frontière irlandaise, hein, entre le nord et le sud.
Alors il y a eu ce vote à la Chambre des communes, et maintenant, quelles sont les prochaines procédures en Grande-Bretagne avant cette date du 31 janvier 2020?
Alors d'ici le 31 janvier, il va y avoir l'achèvement de la procédure parlementaire, à la fois aux communes et à la Chambre des Lords, pour que cette sortie puisse se faire le 31 janvier. Elle va ensuite aussi, on va avoir l'accord normalement du Parlement européen qui doit encore donner donc le blanc-seing pour cette sortie le 31 janvier. Après, c'est surtout dans la suite
qu'il
va se passer
des choses. Mais cette procédure avant le 31 janvier, il peut y avoir des blocages, des majorités qui manquent. Là, il n'y a plus de doute.
A priori, alors voilà, on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir un tremblement de terre, hein, mais a priori, on ne voit rien maintenant qui pourrait empêcher ce départ officiel d'avoir lieu le 31 janvier.
Alors, Pauline Schnapper, le 31 janvier, que va-t-il se passer ?
Eh bien, pas grand-chose. En fait, c'est-à-dire que le Royaume-Uni va sortir officiellement de l'Union européenne, et en particulier, ce qui va changer, c'est le fait que les Britanniques ne seront plus présents dans les institutions européennes. Il n'y aura plus de représentants au Conseil européen, il n'y aura plus de députés européens au Parlement à Strasbourg, il n'y aura plus de fonctionnaires britanniques à la Commission et dans les autres institutions. Donc ça, c'est le grand changement. Les Britanniques ne seront plus là. Mais en revanche, pour ce qui concerne, j'allais dire, le quotidien des citoyens, des entreprises, rien ne va changer jusqu'au 31 décembre 2020, c'est-à-dire que le Royaume-Uni reste dans le marché unique et dans l'union douanière de l'Union européenne.
Donc il n'y aura pas de contrôle aux frontières, voilà, si on veut se rendre en Grande-Bretagne.
Ça ne changera rien le 31 janvier. C'est le 31 décembre que peut-être il y aura des contrôles aux frontières et des contrôles...
Alors justement. On va y venir, Pauline Schnapper, puisque Londres et Bruxelles vont devoir ensuite, après le 31 janvier, négocier le cadre de leur future relation pour éviter une rupture brutale. Donc c'est une période de transition qui va commencer. Rappelez-nous, quels seront, durant cette période de transition, les droits et les devoirs des Britanniques vis-à-vis de l'Europe ?
Alors, comme je vous l'ai dit, pas grand-chose ne va changer. Ils vont continuer à payer pour la politique agricole commune, etc. C'est vraiment à partir du 1er janvier 2021, dans 13 mois, que les choses vont véritablement changer. Et là, on ne sait pas encore très bien sous quelle forme, puisque tout va dépendre de ce qui se négocie pendant l'année qui vient. L'idée, c'est de négocier un accord de libre-échange, mais ça paraît très difficile en si peu de temps. Et aussi des accords de coopération sur des questions très importantes pour nous et pour les Britanniques, que sont toutes les questions de sécurité, par exemple, politique étrangère, défense et police et justice.
Donc vous émettez des doutes, comme certains spécialistes européens, sur le fait de boucler cette négociation sur les futures relations entre Londres et l'Europe en un an. Alors que Boris Johnson lui dit, on va le faire, on va y arriver. Mais si on n'y arrive pas?
Alors, si on n'y arrive pas, une des hypothèses qui sont en l'air, qu'on entend du côté européen en particulier, puisque le gouvernement britannique officiellement ne veut même pas y penser, c'est qu'on ait des accords sur les choses les plus urgentes, et en particulier cette affaire du marché unique et de la frontière, donc d'avoir un accord de libre-échange basique qui porterait uniquement sur les marchandises, et non pas sur les services, qui représentent quand même 80% des échanges entre Européens et Britanniques, mais qui empêcherait en tout, au moins qu'il y ait des files de camions aux frontières le 1er janvier 2021. Mais il paraît difficile d'aller en moins d'un an beaucoup plus loin que cela, et il est probable que tout le reste, c'est-à-dire donc encore une fois les services, mais aussi le reste de la coopération, en particulier en matière de défense, qui sont des choses complexes, puisse être réglé d'ici le 31 décembre.
Mais le but, c'est que la Grande-Bretagne devienne un partenaire privilégié de l'Union européenne.
Absolument.
Un ami très proche.
Voilà, c'est le discours
officiel.
Mais qui
n'est plus membre de l'Union européenne.
Voilà, c'est le discours officiel très général sur lequel tout le monde est d'accord, mais après, évidemment, pour reprendre une expression anglaise, le diable est dans les détails.
Oui, alors justement, à ce propos, pas mal de hauts fonctionnaires européens à Bruxelles disent « on craint un Singapour sur la Tamise ». Qu'est-ce que cela veut dire précisément? C'est-à-dire que les conditions commerciales de la Grande-Bretagne seraient particulièrement avantageuses, et ça risque de bloquer très vite dans les négociations.
Tout à fait. En fait, toute la question, enfin une bonne partie des négociations vont porter sur le degré de divergence en matière de régulation entre ce que font les Européens et ce que font les Britanniques. Un des fantasmes de Boris Johnson et des libéraux qui l'entourent, c'est de s'éloigner de l'Europe pour précisément réduire les taux d'imposition britanniques, attirer plus d'entreprises, réduire la réglementation, etc. Et ça, évidemment, c'est inacceptable pour les Européens si les Britanniques veulent continuer à exporter en Europe. Donc on peut déjà imaginer, dès maintenant, et on va le voir certainement dans les mois qui viennent, des frottements très importants entre des Européens qui ne voudront pas importer de produits qui ne suivraient pas exactement les mêmes normes que celles qui ont lieu dans l'Union européenne. Mais dans ce cas-là, du point de vue britannique, quel est l'intérêt de sortir de l'Union européenne? Et c'est toute l'ambiguïté depuis le départ, depuis le référendum, de cette sortie de l'Union européenne, tout en voulant maintenir un fort niveau de coopération.
Michel Barnier, le négociateur numéro un au nom de l'Europe, a dit, avant cette négociation, zéro tarif, zéro quota, zéro dumping. Donc l'avertissement est très clair.
Absolument.
Boris Johnson, il souhaite conclure cet accord avec l'Union européenne, cet accord de libre-échange en un an. Mais est-ce qu'il sait qu'il a fallu, par exemple, 8 ans et demi pour conclure un accord entre le Canada et l'Union européenne? Donc
bien
il est à peu près certain
sait.
Qu'il y aura des prolongations.
Bien sûr qu'il le sait, mais ce genre de propos ne sont pas à destination des Européens ni de Michel Barnier. Ce sont des propos de campagne, ce sont des propos pour faire plaisir à ces nouveaux députés conservateurs qui ont gagné les élections et qui sont maintenant majoritaires à la Chambre des communes. Bien sûr que Johnson le sait, mais à ce stade, ça n'est pas la question pour lui.
Et si les Britanniques en viennent à rompre brutalement les liens commerciaux avec l'Europe, si on n'arrive pas à se mettre d'accord au terme de cette négociation, qu'est-ce qui va se passer?
Alors, c'est une hypothèse qui ne peut pas être exclue, bien sûr. Et dans ce cas-là, on en revient au schéma précédent, vous vous souvenez, celui dont on avait peur pendant tout l'automne, c'est-à-dire d'une sortie sans accord, qui était à l'origine prévue le 31 octobre 2019, et qui n'est pas totalement exclu pour le 31 décembre 2020. Et dans ce cas-là, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire des files de camions au port français, belge, néerlandais, à Douvres, et surtout l'imposition de tarifs douaniers qui, évidemment, ferait beaucoup de mal à nos économies en général et à l'économie britannique en particulier. Donc, le discours officiel continue d'être qu'on espère bien ne pas se retrouver dans cette situation-là, mais elle ne peut pas être totalement exclue.
Tous ceux qui aiment se rendre en Grande-Bretagne donc sont prévenus, le passage des frontières, ça fera partie de cette négociation qui va maintenant s'ouvrir et qui va durer peut-être un an ou plus.
Tout à fait, pour l'instant pas de changement.
Un mot à propos de la situation politique générale en Grande-Bretagne. Des observateurs, des politologues britanniques disent « Les Britanniques, en majorité, ils sont favorables au maintien au sein de l'Union européenne. » Et pourtant, ils ont donné une majorité écrasante à Boris Johnson qui veut quitter l'Europe. On a du mal à comprendre. Expliquez-nous.
Alors, plusieurs choses. La première, quand ils disent « Il y a une majorité favorable au maintien dans l'Europe », c'est ce que disent effectivement les sondages depuis maintenant bien un an ou deux, mais à une très faible majorité quand même. Mmh. C'est-à-dire que surtout, le point essentiel, c'est que le pays reste extrêmement divisé sur cette question. Mais c'est vrai que c'est pas du tout ce que nous donne le résultat des élections. Il faut comprendre ce résultat des élections par plusieurs facteurs, mais un très important qu'on a tendance à sous-estimer en France, qui est le mode de scrutin. Le mode de scrutin majoritaire à un tour amplifie énormément les résultats. C'est-à-dire que on peut, avec un nombre de voix finalement assez limité, emporter une majorité absolue de sièges au Parlement. Et ça a été le cas du Parti conservateur de Boris Johnson. Les élections se jouent aussi sur un petit nombre finalement de circonscriptions. Celles qui basculent d'un côté à l'autre, un peu comme aux États-Unis, vous savez, où la victoire de Donald Trump s'est jouée dans 3 États américains. C'est un peu moins le cas au Royaume-Uni, mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire que, encore une fois, on a des résultats amplifiés par rapport à ce que les sondages pourraient nous laisser penser. Et puis, dernière chose, ces élections ne se sont pas faites uniquement sur le Brexit. Mmh. Il faut tenir compte d'autres éléments sur lesquels les conservateurs ont joué avec succès.
Pauline Schnapper, je reviens sur cette négociation qui va commencer, qui va durer des mois, qui va sans doute être extrêmement difficile. Elle portera aussi sur la pêche, sur les services financiers, Gibraltar. Je parle des services financiers parce qu'évidemment, la City à Londres veut rester un grand pôle financier européen. Et ça va être très complexe.
Absolument. Et c'est là où on peut imaginer que ces sujets qui sont très importants seront prioritaires. Alors la pêche est clairement une des priorités pour les Européens et les Français en particulier qui voudraient pouvoir continuer à avoir accès aux eaux maritimes britanniques. Les services financiers vont l'être aussi parce que par peur du côté européen d'un dumping côté britannique et côté britannique parce qu'ils souhaiteraient continuer à avoir accès au marché européen, ce qui va être compliqué. Mais tout, encore une fois, tout ne sera pas réglé d'ici le 31 décembre. Donc il faudra faire des priorités, certainement, et remettre à plus tard des éléments de négociation importants, mais un petit peu moins urgents que les marchandises, par exemple.
Mais on peut imaginer l'entrée en vigueur de certaines mesures qui auront été négociées dans le cadre de cette séparation entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Certaines mesures vont entrer en vigueur, et puis celles qui ne sont pas encore, dont on n'a pas trouvé de solution, elles vont attendre.
C'est possible. Alors moi, sais pas plus, ouais, évidemment, ouais. Mais c'est une possibilité. C'est ce qui paraît aujourd'hui le plus vraisemblable, parce que encore une fois, on sait que des accords de libre-échange vraiment importants, couvrant beaucoup d'aspects de l'économie, ne sont jamais résolus en si peu de temps. Même, alors évidemment, on ne part pas de zéro. On part d'un pays qui a suivi les réglementations européennes pendant des années, des décennies, qui a l'habitude des échanges avec les Européens. Donc, bien sûr, on ne part pas de zéro, mais quand même, ça ne prendra plus que 11 mois pour régler toutes ces questions.
Et Boris Johnson, son but, c'est de ne plus subir, je prends ses expressions, les réglementations européennes, les lois européennes.
Absolument, mais il va vite s'apercevoir que c'est un peu contradictoire avec l'autre idée qu'il développe, qui est l'idée d'avoir un commerce libre et facilité avec l'Europe.
Et il veut dans le même temps signer un accord particulier avec les États-Unis.
Alors oui, autre priorité.
Et là, Donald Trump prétend lui faire des propositions absolument formidables.
Absolument. Il y a tout un jeu entre les deux dirigeants que l'on voit depuis quelques mois sur le thème partagé, hein, un discours partagé par les deux dirigeants disant, mais voilà, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne va permettre la signature d'un formidable accord de libre-échange avec les États-Unis qui sera beaucoup plus favorable au Royaume-Uni que d'être dans l'Union européenne. En pratique, ça ne va pas être aussi simple que ça, parce qu'il y aura, on va avoir deux partenaires de très inégaux, évidemment. Le Royaume-Uni sera demandeur, les États-Unis sont en position de force pour imposer des choses que le public britannique ne veut pas forcément. Les OGM, le fameux poulet chloré dont on a beaucoup parlé dans la presse britannique ces derniers mois, l'accès aux services de santé britanniques, des choses qui seront difficiles à refuser par Johnson et que le public britannique ne veut pas. Donc là, même de ce côté-là, ça ne va pas être aussi simple que Johnson le prétend.
Et cette négociation que Boris Johnson va mener avec les Européens, le résultat, est-ce qu'il devra le soumettre au Parlement britannique ?
Certainement. Alors là, j'ai un moment de doute, mais oui, certainement. Ouais. Certainement. De la même façon que la sortie, d'une part, l'activation de l'article 50 du traité de Lisbonne et ensuite l'accord de Theresa May d'abord, puis de Boris Johnson l'ont été.
Je rappelle, Pauline Schnapper, que vous êtes professeure de civilisation britannique contemporaine à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3, spécialiste de la Grande-Bretagne. On pense que ce Brexit a été voté par les Britanniques il y a 3 ans et demi. Que pour l'instant, concrètement, il y a eu des débats, mais ça ne change rien. Que là, on entre dans une négociation pour organiser les relations entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Une négociation qui pourrait durer un an, bien plus longtemps. Est-ce que vous êtes étonnée, surprise par la longueur de ces procédures? On parle du Brexit, les Anglais s'en vont, mais pour l'instant ils sont toujours là.
Oui, pas vraiment étonnée quand on connaît le fonctionnement de l'Union européenne et quand on sait le degré d'imbrication de nos économies, mais aussi de nos sociétés et nos frontières. Enfin, voilà. Donc de ce point de vue-là, c'était pas très étonnant. Et ce qui est pas très étonnant non plus, c'est que la vie politique britannique a tourné autour de cela depuis 3 ans et demi, très clairement. Et ça ne pouvait être que problématique dans la mesure où le Parlement, il faut se souvenir que le Parlement qui était élu en 2016 était très majoritairement opposé au Brexit. Et qu'il y a eu donc une confrontation de légitimité, si vous voulez, entre le résultat du référendum et la tradition parlementaire britannique. Et donc ça ne pouvait pas ne pas être compliqué d'une certaine manière. Bon, cela dit, à ce point-là, peut-être on a quand même tous été surpris.
Pauline Schnapper, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de France Inter ce soir. Bonne fête de fin d'année.
Le 18-20, Pierre Veille sur France Inter.
Et à suivre dans Un jour dans le monde jusqu'à 19h, les bruits du monde des brasseries géantes en Inde. Reportage de Côme Bastin. Et puis, sous les radars des bruits du monde, sous les radars de l'actualité, Claire Chaudière, Claire, votre menu?
Oui, au Congo Brazzaville, tout un quartier englouti sous des montagnes de sable après de fortes pluies. Mais ce n'est pas juste une catastrophe naturelle.
Le monde à l'envers, vers 18h55. Claude Guibal est avec nous. Bonsoir Claude.
Bonsoir Pierre.
Cette semaine, les crises que l'on croyait réglées, et ce n'est pas le cas. Hier soir, on parlait de la Corée du Nord et des États-Unis. Ce soir?
Eh bien, ce soir, on part en Éthiopie. En Éthiopie, dont le Premier ministre vient de recevoir, vous le savez, le prix Nobel de la paix pour avoir mis fin à 20 ans de guerre avec son voisin, l'Érythrée. L'Éthiopie, qui est ce nouveau tigre économique de l'Afrique, et où pourtant, rien ne va plus. Je vous explique pourquoi tout à l'heure.
À tout à l'heure. Claude, Lucas Santana, il est brésilien, il vient de Salvador de Bahia, son 8e album est sorti cette année, son titre Le ciel est vieux depuis longtemps, et sur cet album il y a une pure merveille musicale, un hommage à une nécessaire, indispensable solidarité entre nous, ça donne Ninguém Solta a Mão de Ninguém, je traduis, personne ne lâche la main de personne, une guitare limpide et Lucas Santana.
Quando a fera fere e mata alguém, só porque difere de gênero tem algo enrustido, algo enrustido. Quando
pele de alguém. E não preza a mina de onde cê vem. Faz um ebó pra ele, um ebó pra ele.
Ninguém solta a mão de ninguém. Olho no olho, gente por gente. Cuidar de cada um dentro de nós. Ninguém solta a mão de ninguém. Olho no olho, gente por gente. Cuidar de cada um dentro de nós.
Quando acelera, atropela alguém. Envenena o ar e expõe seu desdém. Pega a bicicleta, pega a bicicleta. Se derruba, mate e atire em alguém. Que cuida da floresta como mais ninguém. Faz um rapé pra ele, um rapé pra ele.
Ninguém solta a mão de ninguém. Olho no olho, gente por gente. Cuidar de cada um dentro de nós. Ninguém solta a mão de ninguém. Olho no olho, gente por gente. Cuidar de cada um dentro de nós.
Se criminaliza o direito de alguém de ter moradia e uma terra também. Movimenta ele, movimenta ele. Esse alguém sem nome sou eu e você. Se juntar não some, faz aparecer. Nome, sobrenome, nome, sobrenome.
Ninguém solta a mão de ninguém. Olho no olho, gente por gente. Cuidar de cada um dentro de nós. Ninguém solta a mão de ninguém. Olho no olho, gente por gente. Cuidar de cada um dentro de nós.
Le bruit du monde. Si je vous dis bière, vous pensez à Lille, Bruxelles, Munich, mais peut-être pas à l'Inde. Pourtant, le sous-continent est en train de vivre une véritable révolution de la brasserie. Et c'est de Bangalore, la Silicon Valley indienne, que le phénomène est parti. Il y a quelques années, on n'y trouvait que de la Kingfisher, la bière nationale, un petit peu insipide. Mais en 5 ans, 60 brasseries immenses ont fait de Bangalore le paradis des amateurs de bière, des maîtres brasseurs, afflux de Belgique, d'Allemagne ou du Canada pour surfer sur cet Eldorado du houblon. Reportage sur place, Combastin.
All right, here we have a huge round of applause for Lamori.
Ben ici, on a une blanche, recette de Belgique, alors orange coriandre, très rafraîchissante, puis c'est la bière préférée des Indiens. Ici, on a une Rauchbier, un style allemand, du malt fumé à la tourbe. Les clients qui aiment beaucoup le scotch, le whisky, vont l'adorer. Ici, à côté, un cidre de pommes. On le fait avec un concentré, car les pommes, ça pousse surtout au Cachemire. Puis en ce moment, vous savez ce qui se passe au Cachemire.
Nous sommes à Ennore, un des nouveaux pôles d'activité et de vie nocturne de la bouillonnante Bangalore. Assis sur une des 2500 chaises de la brasserie Big Brewski, Martin Bernard, brasseur canadien, vient de nous présenter sa cuvée. Comme beaucoup des micro-brasseries de Bangalore, Big Brewski a la folie des grandeurs. Elle se présente comme la plus grande des micro-brasseries d'Asie.
Sur presque 2 hectares de terrain, on est parti de rien du tout. On a décidé qu'on voulait avoir un effet très jungle et naturel. On a fait une cascade avec un grand bassin d'eau, avec des nénuphars, des pierres. Tout est faux, mais tout est vrai.
Martin fait partie de la nouvelle génération d'entrepreneurs venus du monde entier pour brasser à Bangalore. Parmi eux, on trouve aussi Benedict Scholl, un Munichois qui s'occupe des cuvées de 46 Wances. Dans cette brasserie, tout a été pensé pour rappeler les célèbres Biergarten, les jardins à bière de la capitale de Bavière.
Hallo, ich heiße Benedikt, bin 24 Jahre alt, komme aus München.
Je m'appelle Benedikt, j'ai 24 ans et je viens de Munich, où j'ai appris à brasser. Ici, on propose des bières allemandes, comme la Hefeweizen, une blanche typique de l'Oktoberfest de Munich. La seule différence avec Munich, c'est qu'on peut rester ouvert l'hiver et qu'il y a des palmiers. Selon les jours, on sert aussi des plats allemands, Sauerbraten, un bœuf aigre-doux, des schnitzel ou des saucisses.
Avec son gazon en plastique, ses larges tables en bois et ses guirlandes, ce Biergarten n'a pas poussé là par hasard. Il est installé au cœur d'Electronic City, un quartier où l'on trouve la multinationale allemande Siemens, dont les salariés plébiscitent ce petit bout d'Allemagne sous les tropiques. L'Indien Narayan Manapalli organise justement une soirée bavaroise.
Quand je travaillais à Portland, dans l'Oregon, qui est un peu la Mecque de la bière artisanale aux États-Unis, j'ai décidé que je voulais revenir ici pour que les Indiens puissent aussi avoir accès à de super bières. J'étais dans l'informatique, mais j'ai décidé d'arrêter pour lancer deux microbrasseries. Et notre business a explosé parce que la nouvelle génération raffole des bières bien brassées. Par exemple, on propose une Indian Pale Ale appelée Kama Citra. Au total, on produit 40 000 litres par mois qu'on distribue dans 92 bars différents de Bangalore.
La Silicon Valley indienne attire un grand nombre d'Indiens et d'expatriés ayant vécu dans le monde entier. Une concentration à l'origine de la soif que la ville s'est trouvée pour la bière artisanale. Mais d'autres raisons expliquent la démesure du phénomène, notamment le succès des bières IPA, India Pale Ale, qui trouvent leur origine ici, du temps des colons britanniques. André Leblanc est ancien consultant en bière en Belgique, aujourd'hui installé à Bangalore.
Il faut dire que la bière anglaise, début du 19e siècle, c'était la Pale Ale. Mais avec le long trajet, il y avait des problèmes, il y avait beaucoup d'oxydation dans la bière était mauvaise. IPA, ils ont créé ça pour ici parce que les Anglais se sont rendus compte que le houblon préservait la bière, la mode de l'IPA d'aujourd'hui, India Pale Ale, et relié à Bangalore à ce niveau-là.
Au-delà du lien avec le passé colonial de la ville, des contraintes législatives ont aussi favorisé ce boom des brasseries à Bangalore.
On se rend compte que les taxes sont plus élevées, donc c'est moins cher brasser sa bière dans un établissement que la vendre à des cafés pour qu'ils la servent aux clients. Oui. Depuis 2009, la première à Bangalore, il y en a plus de 60 aujourd'hui. Et j'en connais au moins une bonne dizaine encore qui sont en projet.
La législation impose une superficie minimum de 1000 m² pour obtenir une licence de brasseur, d'où la taille démesurée des établissements de la ville, dont certains brasseraient d'ailleurs autant d'argent noir que de houblon, murmure un expert sous couvert d'anonymat. Selon les études, le marché de la bière en Inde devrait connaître une croissance de 8 à 10% par an. De quoi faire des affaires pour Martin Bernard.
Comment vous voyez la scène de la bière à Bangalore dans 5 ans?
Probablement 100 microbrasseries. J'espère que... Maintenant, j'en ai 3. J'espère que j'en aurai 5. C'est ici qu'il y a le plus de bouleversements, qu'on trouve le plus de bières différentes. Mais d'ici une dizaine d'années, probablement qu'il y aura autour de quoi 1000 microbrasseries en Inde.
Bon, je vous propose de se faire une petite mousse.
Ah oui, s'il vous plaît.
L'industrie de la bière en Inde à Bangalore. Reportage de Combastin. Le bruit du monde encore sous les radars avec Claire Chaudière. Claire, d'abord le bruit du sable et de l'eau. Nous ne sommes pourtant pas au bord de la plage.
Non, nous voici plutôt au Congo, à l'ouest de Brazzaville, où des milliers de personnes abandonnent ces jours-ci leur maison à cause des eaux de pluie et de gigantesques écoulements de sable. Les images sont assez ahurissantes, des montagnes de sable qui empêchent de rentrer dans les maisons, les habitants obligés de déblayer avec des pelles, de circuler dans des sortes de tranchées, tout un quartier méconnaissable et dont les habitants témoignent sur place au micro de l'agence France Presse.
Nous sommes abandonnés, nous sommes négligés nous-mêmes. Vous voyez, tout un grand quartier est englouti. Même pas inondé, je dis englouti.
Et c'est l'eau de la pluie qui tombe depuis le quartier Saint-Delmi, là où les Chinois ont creusé les sables qui tombent de là-bas, venant enterrer les maisons jusqu'ici.
Les Chinois, ou plutôt une société chinoise de BTP qui gère un chantier de construction de conduits d'eau à deux pas de là, voilà selon ses habitants les responsables de la catastrophe. Il faut dire que depuis des années, depuis plus d'une décennie, même la Chine rafle la majorité des grands marchés publics du pays. Construction de stades de la capitale, ministère des Affaires étrangères, hôpitaux, réfection des routes. Les Chinois se sont taillés la part du lion à coups de prêts aux conditions imbattables, gagées sur la livraison de pétrole et de bois, mais pour des résultats sur le terrain très inégaux donc, et avec un risque d'étranglement financier à la clé, désormais confronté à la dégringolade des cours du brut, le Congo-Brazzaville a de plus en plus de mal à rembourser sa dette chinoise qui a explosé.
Claire, crise de la dette et crise économique en Argentine, cette fois quand la mort devient un luxe.
Oui, caveau éventré, étonnant spectacle à Buenos Aires, où la baisse du pouvoir d'achat contraint de nombreuses familles à renoncer à des sépultures. Les cimetières sont vidés de leurs tombes, écoutez. Dans cette interview que vous entendez, une dame explique au journaliste de l'AFP sur place qui l'interroge que le bail payé pour la tombe de sa mère est de 80 € par mois. Alors, dit-elle, on s'est débarrassé de la tombe avec ma sœur. C'était une dépense qui n'avait pas de sens pour nous. Des Argentins qui sont aussi de plus en plus nombreux à choisir la crémation, 7 fois moins chère que les enterrements classiques. Les services funéraires devenus inaccessibles pour la classe moyenne. En 2018, 78% des décès ont donné lieu à des crémations là-bas.
Elle s'appelait Ghadir Taher et sa mort a bouleversé la ville d'Atlanta aux États-Unis.
Oui, son histoire ressort cette semaine là-bas à l'approche du premier anniversaire du drame. Ghadir Taher, né en Syrie en 1991, pays qu'elle avait quitté à l'âge de 10 ans pour terminer de grandir de l'autre côté de l'Atlantique, était lumineuse, décrite comme très ouverte, très intelligente. Mais la jeune femme qu'elle est devenue a voulu retrouver une part de son identité, rester à Damas tout en aidant son deuxième pays, les États-Unis. En 2018, elle accepte donc une mission aux côtés des militaires américains. Elle devient interprète en Syrie, mais sa vie bascule soudain à Manbij. En janvier 2019, la télévision locale d'Atlanta aux États-Unis fait état de sa disparition.
Tonight, an East Point family grieving the sudden loss of their loved one killed in that terror attack in Syria. A 27-year-old Ghadir Taher was among 4 Americans who died in Wednesday's explosion.
Ghadir Taher, tué dans un attentat suicide en Syrie, dans un pays qu'elle était partie retrouver avec le double honneur, disait-elle, de le retrouver sous les couleurs de l'armée américaine. Réconciliation de ces deux identités. Un magnifique portrait signé de plusieurs reporters du Washington Post ces jours-ci. Sa mort est intervenue quelques jours après l'annonce surprise par Donald Trump du retrait des troupes américaines du nord de la Syrie. C'était il y a un an. L'information avait déstabilisé les missions des militaires sur place.
Claire Chaudière, direction les forêts de l'Utah, aux États-Unis maintenant, où une grande scientifique se bat pour lancer une nouvelle gamme de poupées Barbie.
Oui, je vous présente Nalini Nadkarni, sacré personnage scientifique, universitaire, exploratrice. C'est l'une des toutes premières femmes à s'être intéressée à la canopée, c'est-à-dire au sommet de la forêt, à cet écosystème très particulier. Elle grimpe, elle escalade dans un milieu scientifique très masculin. Mais un jour, en grimpant justement, il lui est venu une idée, donner envie aux petites filles de faire ce métier en créant des Barbies, idée farfelue mais qui a fait son chemin. Barbie scientifique, exploratrice, ça c'était il y a 15 ans. Nalini ne se démonte pas, coup de fil à l'entreprise Mattel pour en parler. Et comme elle le raconte à cette journaliste de NPR, la radio publique américaine.
So I called up Mattel.
Et donc j'ai appelé Mattel, dit-elle, et je leur ai tout simplement donné mon idée. Mais ils m'ont dit, non, on ne va pas faire ça, oubliez votre idée, ça ne marchera pas. Et puis là, il y a un an, j'ai eu cet appel de National Geographic, le magazine qui avait entendu parler de mon histoire et qui m'a dit, vous savez quoi? On fait un partenariat avec Mattel pour lancer vos poupées exploratrices. Est-ce que vous voulez nous conseiller là-dessus? J'étais vraiment ravie. C'est incroyable. Voilà des Barbies qui montent aux arbres pour donner envie aux petites filles. Ça ne changera pas le monde d'un seul coup, conclut leur inspiratrice, mais c'est un petit début.
Claire Chaudière, sous les radars de l'actualité, dans les bruits du monde. Merci Claire et à demain. Grâce à Djoubaka, notre programmateur, nous sommes en 1969 avec le groupe de rock américain Creedence Clearwater Revival. Le Bayou, c'est une immense région marécageuse du sud de la Louisiane, un lieu qui a inspiré le chanteur de Creedence Clearwater Revival, c'est John Fogerty. Il a composé Born on the Bayou, c'est un immense classique de la musique rock américaine de la fin des années 60. Et la voix de John Fogerty.
C'était il y a 50 ans. Le temps passe à une vitesse. Creedence Clearwater Revival. Born on the Bayou. Un autre classique que je vous recommande, si vous ne connaissez pas très bien ce groupe, c'est Proud Mary.
Pierre Veille, le 18-20.
Le monde à l'envers. Cette semaine, le monde à l'envers revient avec vous, Claude Guibal, sur les crises internationales que l'on croyait réglées, mais qui sont loin de l'être. Ce soir, l'Éthiopie. Il y a 3 semaines, le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, recevait le prix Nobel de la paix, un prix pour saluer la réconciliation qu'il a menée pour mettre fin à 20 ans de guerre avec l'Érythrée.
Oui, c'est vrai, Pierre, que ça ressemble à un miracle. Il n'aura fallu que quelques mois de pouvoir à peine à Abiy Ahmed pour réaliser l'impossible. La réconciliation. Après 20 ans de guerre sanglante avec le voisin ennemi, l'Érythrée, un des États les plus durs, les plus fermés du monde. Poignée de main, rouverture des ambassades, rétablissement des liaisons aériennes. Une incroyable paix surprise entre ces deux pays dont le conflit était quand même au cœur de la déstabilisation de toute la Corne de l'Afrique. Mais Pierre, Abiy Ahmed ne s'est pas arrêté là. Il s'est aussi en quelques mois improvisé en médiateur des autres conflits régionaux, le Soudan du Sud. Et chez lui, en interne, le tout jeune Premier ministre, il n'a que 43 ans lui, il a lancé un énorme programme de réformes économiques et politiques. Dans une Éthiopie gangrénée par des décennies de pouvoir autoritaire, un de ses premiers gestes, eh bien, ça a été de lever l'état d'urgence, de faire libérer des centaines de prisonniers politiques et de mettre en place une commission de réconciliation nationale. Bref, effectivement, un vrai miracle.
Claude Guibal, de quoi effectivement convaincre les jurys du prix Nobel de la paix?
Oui, il faut dire quand même que ça force l'admiration, tout ça, mais en fait, derrière ces efforts, il y a quand même une véritable stratégie. Abiy Ahmed le sait, il doit son arrivée au pouvoir à la colère de la population éthiopienne. Une colère en partie socio-économique qui a fait chuter son prédécesseur après d'immenses manifestations anti-gouvernementales. Et son obsession à lui, c'est ça, c'est de réformer et de sortir l'Éthiopie de la pauvreté en continuant à diversifier au maximum son économie afin de la rendre quand même moins dépendante de l'agriculture, du climat. Donc l'idée, c'est d'industrialiser tout ça, mais pour cela, il faut donner envie aux agriculteurs, aux investisseurs, pardon, de devenir des investisseurs qui sont échaudés par des années de fermeture économique, mais aussi par les guerres civiles et régionales. Difficile, en effet, pour un pays de se développer dans le chaos et l'insécurité, d'où l'urgence à se réconcilier avec tout le monde.
Et en premier lieu, avec l'Érythrée, donc.
L'Érythrée, avec qui l'Éthiopie était en guerre depuis 1998. L'indépendance de cette ancienne province en 1993 a généré un conflit frontalier qui a privé l'Éthiopie d'un accès direct à la mer. Or, cet accès à la mer, il est évidemment essentiel pour l'Éthiopie, le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, est désormais considéré comme un tigre économique avec une croissance proche, écoutez, de 8%.
8%, alors évidemment, de quoi faire envie en effet, sauf que le miracle est très fragile, Claude.
Terriblement fragile, même parce que passé l'euphorie des débuts, rien ne va plus, ou presque. Un an plus tard, en effet, les négociations avec l'Érythrée sont au point mort. Les deux pays ne sont toujours pas d'accord sur le tracé des frontières. Des postes frontières ont même été refermés et le climat se tend. En interne, rien ne va plus non plus. Les réformes trop radicales sont rejetées par la vieille garde. L'ouverture politique extrêmement large, lancé par Abiy Ahmed, a eu aussi comme effet pervers de permettre aux vieilles rivalités ethniques de reprendre de la vigueur. La haine entre communautés a ressurgi et le spectre de la guerre civile aussi.
Et il y a eu des affrontements en octobre, presque 90 morts.
Des violences ethniques, Pierre, qui ont été tellement meurtrières qu'Amnesty International parle même aujourd'hui de signes avant-coureurs d'atrocités de masse. Et dans ce contexte, les élections qui étaient prévues en mai pourraient ne pas avoir lieu. Tout le monde craint que le pays n'implose à nouveau avec le risque d'entraîner toute la région avec lui. Cela, ça a bien évidemment assombri la remise de ce prix Nobel. Tout le monde craint désormais que le miracle éthiopien ne tourne à la catastrophe. Sacrée pression quand on doit porter les espoirs d'un Nobel de la paix.
Le monde à l'envers avec Claude Guibal. À demain soir, Claude.